Bonjour, c'est Marin, vous écoutez l'émission d'information locale et au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, l'info du jour, une interview pour annoncer une rencontre sur le sujet des migrations avec le Cercle du Condorcet, il y aura de la musique, un reportage à la découverte du travail d'Humanima, une recommandation et puis la série Le Littoral Autrement de la Corlab. Bienvenue dans l'arène.
Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une somme immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
On commence avec l'info du jour, c'est le blocage de plusieurs dépôts pétroliers à Lorient, à Brest et à Verne-sur-Sèche près de Rennes depuis hier. Ce sont des transporteurs, des professionnels des travaux publics, des pêcheurs, des ambulanciers et puis les autres travailleurs pour lesquels le carburant est un outil de travail essentiel qui sont à l'origine de ces mobilisations. La plupart des bateaux sont également immobilisés dans les ports de pêche de Loctudy, Saint-Guénolé et de Guilvinec. Les prix des carburants dépassent désormais souvent les 2 euros par litre avec la spéculation due à la guerre en Ukraine qui impacte fortement les prix. Norbert Guillou, patron d'une entreprise de travaux publics et l'un des porte-parole du mouvement de Lorient, réclame un gel de la taxe intérieure sur les produits pétroliers tant que le carburant ne sera pas revenu à un prix d'avant-crise, soit 1,30€. On observe d'autres mobilisations du même type ailleurs en France ces dernières heures, comme à La Rochelle ce matin.
René Joucan et Raymond Pollet, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous présente Raymond Pollet, vous êtes membre du Cercle Condorcet qu'on va présenter dans un instant. René Joucan, vous êtes vice-président délégué à la laïcité, à la Ligue de l'Enseignement. Et ensemble, avec d'autres, vous organisez samedi 19 mars au Théâtre de la Parcheminerie un débat, un temps de conférence puis de débat sur le sujet de la régularisation des migrants. On commence par présenter le Cercle Condorcet. C'est une association étroitement lié à l'histoire de la Ligue de l'Enseignement.
Très étroitement lié, oui, puisque c'est une initiative de la Ligue de l'Enseignement 1986, ça date déjà d'un peu. Premier cercle à Paris, présidé par un éminent journaliste, Claude Julien, qui était longtemps le patron du monde diplomatique. Et donc, à partir de là, vont se créer un peu dans toute la France, notamment dans les villes universitaires, un certain nombre de cercles, dont à Rennes, trois ans plus tard, en 1989. Donc le cercle de Rennes, 89.
Et également un petit peu à l'étranger aussi.
Et un petit peu à l'étranger. Genève a été dans les premiers, Montréal. Voilà, il y a quelques cercles étrangers. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine de cercles. Ce sont des assemblées de citoyens, des gens d'horizons divers, d'expériences diverses.
Qui réfléchissent ensemble.
Qui réfléchissent ensemble, qui ont le souci de comprendre mieux le monde dans lequel on vit. Alors il y a des références, hein, c'est quand même les valeurs, les principes de la République, démocratie, égalité, laïcité, solidarité, ce sont au cœur un peu de notre socle de référence, si je puis dire.
On pourrait dire, René, que ce sont souvent des gens qui ont été ou qui sont encore très engagés finalement dans la vie de la cité, que ce soit sur le plan associatif, syndical, politique, professionnel.
Oui, ce sont
leur engagement aujourd'hui.
Quoi. Et c'est né d'un constat, c'est qu'il y avait que disparaissaient ces lieux de réflexion. Aujourd'hui, l'État, alors c'était vrai il y a 30 ans, mais aujourd'hui, l'État des partis politiques, par exemple, on ne va pas refaire le procès des partis politiques, qu'on considère comme nécessaire, mais pour autant, on ne peut pas dire que c'est des lieux où on pense, où on travaille, voilà, les questions sur le fond. Donc le cercle avait cette ambition, ne s'interdisant rien. Les sujets traités sont les sujets que les gens assemblés, à un moment donné, ont envie de prendre en charge. Voilà, et ils peuvent le faire sur la durée. En général, on ne s'attarde pas plus d'un an sur le même sujet, mais on se permet de travailler sur la durée, pas le temps d'une seule réunion. Le Cercle de Rennes a travaillé 3 ans durant sur la question de la démocratie dans l'entreprise.
Donc là, on va arriver à un nouveau sujet. On va en parler juste pour terminer sur le Cercle de Condorcet de Rennes, qui a donc été lancé en 1989. Combien de membres aujourd'hui dans ce cercle-là ?
C'est une trentaine, avec une figure majeure qui reste sur le Cercle de Rennes. Je vais citer Olivier Sabourot, qui a été le premier président du Cercle de Rennes et qui reste une figure pour nombre de personnes, même si le cercle a connu un petit... un petit déclin. Il est resté en veille.
Il a été relancé. Il y a cinq ans.
Voilà.
Comme René le disait, on se choisit finalement des thématiques de façon assez libre, mais en même temps, ça peut être plus ou moins lié effectivement à l'actualité. On a travaillé pendant un peu plus d'un an sur la question du modèle social français, par exemple. Et puis il y a effectivement aussi quoi un an, on a choisi ce thème, travailler sur la question des migrations et des politiques migratoires, au regard aussi effectivement de l'actualité, parce que c'est un sujet un petit peu récurrent, et puis parce qu'il nous a semblé, dans l'esprit du Cercle Condorcet, qu'il fallait qu'on puisse contribuer finalement à ce débat public en apportant un certain nombre d'éclairages qui nous semblaient absolument indispensable.
Donc on l'a compris, le thème choisi, ce sont les politiques migratoires. Samedi 19 mars, il y aura donc un temps fort organisé par le Cercle de Condorcet sous forme de conférences puis de débats. C'est en fait l'aboutissement de plusieurs mois de réflexion. Ça ressemblait à quoi ces temps d'échange? Donc depuis plus d'un an, vous vous rassemblez régulièrement?
Voilà. L'esprit de ce travail, c'est effectivement qu'on se rassemble pour partager un certain nombre de compétences finalement, et qu'on vient aussi également enrichir d'apports ou de témoignages de personnes, d'universitaires, de spécialistes qu'on invite aussi à venir nous rencontrer, voilà, pour ouvrir un petit peu les perspectives, pour nourrir cette réflexion. Et puis donc aussi l'idée, c'est à certains moments, quand ça nous semble peut-être assez mûr aussi, c'est de partager cette réflexion, ce travail avec le plus large public. Et c'est un peu l'idée et le principe de cette journée, donc de samedi prochain, qui a lieu donc à la Théâtre de la Parcheminerie, donc le 19 mars.
Donc samedi 19 mars, la réflexion s'ouvre au grand public. À Rennes, c'est quand même assez particulier. Les Rennais sont assez mobilisés sur ces questions. Il y a beaucoup d'associations, de collectifs qui militent pour les droits des personnes exilées à Rennes. On peut citer peut-être la CIMAD, avec laquelle la Ligue de l'Enseignement a mené un travail, c'est quoi, de sensibilisation auprès notamment du jeune public.
Oui, et notamment publié un guide sur la question migratoire avec la CIMAD. Oui.
Alors le titre du temps d'échange samedi 19 mars de 14h à 18h30 au Théâtre de la Parcheminerie à Rennes, le titre est Cash, migrant, ; faut-il avoir peur de la régularisation ? Il se trouve que l'actualité à la fois géopolitique avec la guerre en Ukraine et aussi nationale avec l'élection présidentielle qui approche, ça en fait un très bon sujet de débat en ce moment.
Le sujet, on l'avait effectivement choisi, déterminé sous cet angle particulier avant évidemment l'irruption de la crise et de la guerre en Ukraine, mais évidemment l'actualité va aussi alimenter finalement ces échanges, parce que ça va, on voit bien, on comprend bien que ça nous a conduit à repenser les questions d'accueil, d'hospitalité, enfin, et la question des réfugiés, quoi. Enfin.
Et sur la place de la peur, sur ce terme de peur, c'est ce qui émergeait dans les réflexions, en tout cas ce qu'on sent poindre un peu dans le débat public depuis un moment maintenant.
Oui, c'est ce qu'on mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parlait de régularisation dans notre titre, parce qu'il y a eu deux précédentes régularisations massives, en 1982 et en 1997. Environ 150 000 personnes à chaque fois, à chaque session. Mais depuis 1997, rien. Et donc, on voulait aussi revenir sur cette question, et on mesure aujourd'hui que les politiques migratoires en France sont tétanisées par la peur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution, sinon dans le mauvais sens, si je puis dire. C'est toujours davantage de contraintes, davantage de difficultés pour l'accueil et ceux qui accueillent. Donc nous voulions mettre en question cette peur. Il y a peur de l'autre, peur des migrants, peur de l'extrême droite, peur de l'opinion qui tétanise aujourd'hui les dirigeants politiques. Et c'est pourquoi notre titre est un peu cash, d'ailleurs. Il nous l'a été reproché. On se disait, mais vous associez migrants et peur. Le programme est sans ambiguïté pour nous, mais pour autant, c'est aussi se donner une chance peut-être de voir venir des gens qui s'interrogent simplement, qui ne sont pas convaincus et qui pourront aussi entendre des travaux de recherche, des éléments de connaissance pour se faire une idée précise de la situation des migrants en France.
On précise que les deux vagues de régularisation que vous évoquez en 82 et en 97 avaient eu lieu sous des gouvernements de gauche. La rencontre de samedi, elle aura donc lieu au Théâtre de la Parcheminerie. On précise que c'est sur inscription. Il faut se rendre sur le site internet laligue35.org. Il sera également possible, comme le temps de rencontre est assez long, de 14h à 18h30, de venir sur place pour assister aux conférences et aux débats. Sur le choix de l'organisation de l'après-midi, d'abord des temps, on va dire, d'information avec des intellectuels, des chercheurs, et ensuite on lance le débat, on pose les bases et on discute.
Il y a quatre séquences. Alors on a privilégié ce mode-là à la table ronde qui parfois tourne.
Tourner parfois en rond,
effectivement, comme on l'indique, voire à la foire d'empoigne, etc. Là, on s'est dit, on va donner le temps à chacun des intervenants d'exposer finalement son propos, de le donner à entendre parfaitement et de permettre ensuite l'échange avec le public. Donc en fait, quatre interventions. À chaque fois, en gros, c'est un set d'une heure, quoi. C'est-à-dire une intervention de 20 à 30 minutes. Et puis ensuite, l'ouverture à l'échange avec la salle pendant également le même temps, donc 20 à 30 minutes, autour de ces quatre intervenants qui ont été choisis.
On les présente peut-être.
On les présente, voilà. Ils ont été choisis avec beaucoup de soin. Donc Hervé Lebras, qui est démographe et historien, qui va dessiner un petit peu un tableau d'ensemble et revenir sur la question, effectivement, des chiffres.
Des chiffres.
Très précisément.
Sommes-nous submergés ou menacés par une submersion ?
On peut donner le titre, d'ailleurs, de son dernier ouvrage, oui. Il n'y a pas de grand remplacement.
Il a sorti deux coups sur coup. Là, il n'y a pas de grand remplacement et le grand enfumage. Ensuite, Ekram Bouptan, qui est économiste et qui va nous permettre aussi de faire le point sur un certain nombre de questions qui sont aussi récurrentes, quoi. C'est-à-dire les migrants, ça coûte,
ça prend le travail des autres,
voilà, donc
du chômage,
voilà, c'est ça. Donc sur ce plan économique, elle, au contraire, évidemment, montre que c'est plutôt un apport qu'un fardeau. Hein. Et puis Catherine Whittle de Wenden, qui est elle politologue, qui est aussi spécialiste des migrations et qui a écrit un atlas et qui aura probablement aussi une focale très européenne parce qu'elle élargit effectivement le propos autour de la question finalement du rapport transnational, au-delà des frontières, l'interdépendance, etc. Et puis pour terminer, Eric Favet, donc, qui est vice-président de la Ligue de l'enseignement, et qui lui interviendra sur le plan de la constitution finalement de cet espace de débat, la question de...
À la fois que peut l'éducation populaire,
des
cercles comme le cercle Condorcet, mais au-delà des cercles, des associations d'éducation populaire, que peuvent-elles pour combattre ces idées reçues, pour travailler sur cette question des idées reçues. Et au-delà de ça, c'est aussi des propositions de la Ligue pour une politique d'accueil et d'hospitalité envers les exilés.
On comprend que ces invités, ils sont en tout cas favorables à un meilleur accueil des personnes migrantes, si je vais très vite. Factuellement, les chercheurs, les intellectuels le répètent, il n'y a pas de grand remplacement. Si on reprend le titre de l'ouvrage du démographe Hervé Lebras, la rencontre du cercle de Condorcet, est-ce que c'est essayer de convaincre, malgré des candidats d'extrême droite qui, en tout cas, dans les sondages, séduisent les électeurs, convaincre de ce qu'on répète depuis un moment
Il nous a semblé que le débat public était un peu saturé des mêmes arguments et donc qu'il fallait effectivement à un moment rétablir la vérité des chiffres, des faits, des situations. Parce qu'en plus, ce qu'on voit bien, c'est que cette situation de sans-papiers, enfin, ça crée des situations de non-droit qui sont... à terme aussi, enfin, extrêmement difficile, compliqué évidemment pour les collectivités territoriales également, on le voit bien à Rennes, et surtout c'est aussi enfin, peu conforme à nos principes humanistes. Hein.
Et c'est partager des informations, des éléments, des faits avec un public dont on peut penser qu'ils s'empareront de ça pour continuer leur travail de militant, dans leur cercle de travail, dans leur cercle d'engagement. Voilà, c'est aussi ça. Nous, on ne fait pas la guerre, mais il y a quand même une bataille à mener, une bataille des idées, et on s'inscrit là-dedans.
D'où viennent les personnes migrantes? Combien seraient-elles sur le territoire? De quoi on parle quand on parle de régularisation? Quel est le coût de l'accueil? Quelle est la place des migrants sur le marché du travail? Le mode de vie français, entre guillemets, est-il menacé? Autant de questions qui seront posées sans tabou, samedi 19 mars de 14h à 18h30 au Théâtre de la Parcheminerie. Je redonne le site internet pour s'inscrire, laligue35.org. Raymond Paulet, un dernier mot?
Oui, on pourra, si on ne peut pas venir, retrouver ces échanges qui seront, puisqu'il y a une captation, ils seront donc mis en ligne et ensuite disponibles sur le site de la Ligue.
Laligue35.org, je vous représente tous les deux. Raymond Paulet, vous êtes membre de ce cercle Condorcet qui organise donc un temps de conférence et de débat samedi 19 mars sur ce thème de la régularisation des migrants. Et René Joucan, vous êtes vice-président délégué à la laïcité à la Ligue de l'enseignement d'Ille-et-Vilaine. Merci beaucoup.
Merci à vous.
l'instant sur Canal B, c'était la nouveauté musicale du jour, Geneva de Superpose. On va poursuivre avec un reportage de Claire Vivapro, étudiante journaliste en stage à Canal B, qui vous présente aujourd'hui le travail de médiation par l'animal que propose Humanima. Humanima, c'est un institut et une association lancée en 2009 à Saint-Gilles près de Rennes. Ils interviennent en milieu carcéral, en EHPAD, globalement auprès des personnes fragilisées pour travailler sur des objectifs moteurs, affectifs, cognitifs, mais aussi de bien-être, le tout grâce à des animaux comme des chiens, des chevaux, mais aussi des lapins. Vous trouverez plus d'infos sur humanima-6formation.com. Je vous laisse découvrir ce reportage de Claire Vivapro. Bonne écoute.
Alors, je suis Emmanuel Doumalin, je suis le directeur de Humanima et Humanima Formation, des structures de médiation par l'animal et de formation en médiation par l'animal. Alors, c'est deux structures sœurs, hein, donc j'ai fondé les deux. Hein. Donc, Humanima a été créé en 2009. Avec des expérimentations sur les pratiques de médiation par animal, donc créer des situations où l'animal partenaire permet de stimuler des personnes en situation de fragilité pour pouvoir retravailler sur des objectifs d'amélioration de leur autonomie. Et Humanima Formation a été créée en 2015 pour pouvoir transmettre les protocoles méthodologiques qu'on avait construits, le partager donc avec des professionnels de la santé sociale paramédicale, des professionnels de la relation d'aide, et en partenariat aussi avec le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche du Québec, puisque du coup on est partenaire avec eux maintenant depuis 2013.
Et donc vous êtes issu de ce domaine-là paramédical ou pas?
Oui, je suis travailleur social de formation. Ouais.
Est-ce que médiation animale, on parle aussi de zoothérapie parfois, c'est la même chose ou c'est...
Alors c'est des termes, zoothérapie ça a été le terme utilisé par les anglo-saxons, mais vous voyez au Canada on revient aussi à la médiation animale. Alors nous on préfère utiliser médiation par l'animal, c'est ce qui maintenant est un peu plus utilisé, c'est-à-dire qu'à un moment on me demandait si j'étais psychologue pour chiens, donc j'ai dit non, mais moi, les chiens sont mes partenaires, donc je fais de la médiation par nos partenaires animaliers, donc médiation par l'animal. C'est la compétence d'un professionnel à créer une situation d'interaction avec la personne basée sur du prendre soin auprès de l'animal. L'animal reçoit des attentions. Notre méthodologie étant de partir du profil de la personne, de ses objectifs d'amélioration d'autonomie ou de mieux-être, et du coup de sa capacité de participative. Donc on va vraiment partir de la personne, c'est pour ça qu'on n'a que des professionnels de la relation d'aide, c'est-à-dire que notre compétence est aussi de voir, et primordiale, sur le fait de voir en fait le profil de la personne et de ses besoins. Ensuite, l'animal va créer une situation naturelle et partagée, et d'agir auprès de l'animal, hein, d'engagement de la personne, pour pouvoir agir auprès de l'animal. Donc dans ce cadre-là, on intervient avec des publics très différents. Hein, personne en milieu carcéral, isolé, personne avec traumatisme crânien, personne avec autisme, personne âgée dépendante, enfant accompagné en IME, CESAD avec des enfants avec autisme, on a même accompagné des personnes en situation de phobie sociale, hein, qui sortaient plus de chez eux, donc on retravaille toute une série de protocoles, et l'animal est l'intermédiaire pour créer des situations qui progressivement vont amener à améliorer l'autonomie de la personne.
Bah donc c'est un travail un petit peu sur le temps long, ça crée une relation triangulaire avec la personne qui accompagne et l'animal. Quelle relation se crée ?
C'est vraiment le terme qui est utilisé, c'est effectivement une relation triangulaire par rapport à l'intervenant, à la personne et en intermédiaire avec l'animal pour celui qui va faire sens. Donc on va travailler sur des aspects qui peuvent être multiples, ce qu'on appelle l'approche globale, c'est d'aller sur des aspects moteurs, des aspects cognitifs, des aspects psycho-affectifs, qui créent des ensembles en fait, qui créent l'autonomie sur ce qu'on appelle les compétences qu'on a tous à chacun en fait. L'idée en fait c'est de plutôt que de se dire qu'on va prendre un animal et puis de lui faire acquérir des aptitudes qui soient pas naturelles par rapport à ce qu'on met en place, l'idée en fait c'est vraiment d'identifier les profils de caractère des animaux où il n'y aura besoin que de faire du renforcement positif par rapport à ce qui est attendu. Ce ne sont pas des chiens d'assistance, nos chiens surtout ont des aptitudes à pouvoir entrer en relation avec les personnes, apprécier les caresses, et plutôt sur de la stabilité émotionnelle, c'est-à-dire ils peuvent être joueurs mais aussi pouvoir être très calmes. Donc du coup cette analyse est primordial pour ensuite travailler sur ce qu'on appelle le renforcement positif. Et si vous pouvez voir les vidéos sur YouTube, on voit que les animaux, en fait, tout est basé sur de la caresse, ils reçoivent des soins, du prendre soin. Donc c'est des attitudes très naturelles qu'on peut retrouver dans notre vie, hein, avec nos animaux. Même avec les chevaux, on va être sur des choses qui vont être vraiment sur le contact et l'approche émotionnelle. Donc du coup, ces animaux-là, c'est une plus-value auprès d'eux quand on les a bien sélectionnés et que du coup, ils sont habitués. Et ils ont été formés en fait à pouvoir se mettre en situation des séances, et donc du coup ça devient des situations très naturelles pour eux. Quand on intervient en médiation par animal, on va toujours aussi intervenir avec le même animal, c'est-à-dire un professionnel, un animal qui va à la rencontre d'une personne. Effectivement, ce lien, on va le retrouver par exemple de manière très forte en milieu carcéral, c'est celui qui va permettre par exemple à un détenu de se projeter dans la rencontre de la semaine suivante, de se projeter dans le temps, de se projeter aussi dans cette relation de confiance qui s'est créée et cette relation naturelle et spontanée avec l'animal. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ma chienne, elle s'appelle Novak en milieu carcéral. Et du coup, l'idée, c'est que Novak aussi va aller à la rencontre des personnes et au fur et à mesure va se projeter dans la relation, donc va avoir une proximité suffisante, va accueillir la personne, va lui faire la fête. L'autre personne va se sentir reconnue aussi dans cette relation. Donc cette spontanéité de la relation qui va se créer est assez primordiale, effectivement.
Qu'on ne peut pas forcément trouver dans des relations humaines, pour certaines personnes.
Alors l'animal, c'est le facilitateur. On a ce qu'on appelle, nous, les habiletés sociales qui fait qu'on a créé un peu des clivages dans l'entrée en relation et puis peut-être des stratégies relationnelles. Du coup, la spontanéité de l'entrée en relation avec l'animal fait que la personne sait que si l'animal vient vers elle, il n'y a pas d'enjeu autre que la rencontre et la spontanéité de la rencontre. Donc là, c'est là que du coup, en face, la personne va s'autoriser le lâcher prise et va s'autoriser aussi à totalement entrer en relation avec l'animal, et nous, dans cette triangulation, à pouvoir aussi être identifiés avec les mêmes valeurs de non-jugement et de spontanéité de la rencontre. En tant que formateur à Humanima Formation, on est 3 permanents et on fait intervenir des personnes, soit qu'on a formées sur des aspects très spécifiques, soit des professionnels d'autres horizons, tels que des éthologues, des vétérinaires, des médecins. On a une série de collègues qui sont tous sensibilisés en fonction de leur profil professionnel aussi, à la médiation par animal. C'est-à-dire que quand on fait une formation avec un médecin gérontologue, c'est l'accompagnement des personnes en EHPAD avec la médiation par animal, etc., etc. Et au niveau d'Humanima, on a été jusqu'à 10 professionnels à être praticiens. Maintenant, on est 3 aussi, toujours le même trinôme, mais avec du coup la possibilité de faire intervenir des gens qu'on a formés, qui sont constitués maintenant dans le cadre d'un réseau. Donc du coup, on transmet aux établissements leurs coordonnées pour pouvoir avoir la possibilité de faire travailler des professionnels formés à nos méthodologies, mais aussi au sein de notre institut ou dans le cadre de projets assez conséquents comme l'intervention auprès de personnes isolées à domicile, où là on va faire intervenir tout notre réseau et on va le coordonner.
Donc là pareil, c'est un processus qui se met en place sur différentes étapes d'accompagnement de la personne. Vous allez la voir plusieurs fois, la rencontrer.
Systématiquement, notre travail n'est pas dans l'intervention unique parce que du coup ça n'a pas de sens. Ça va être effectivement dans la régularité de nos interventions, avec une rythmicité. On est en général sur une rencontre toutes les semaines et c'est permettre en fait de semaine en semaine de voir comment on peut permettre d'améliorer la situation, comme je vous le disais, son autonomie. Mais effectivement, c'est dans l'analyse de ce qui a pu être transposé de nos séances en dehors de nos séances entre toutes les semaines qui va permettre en fait d'analyser, de diagnostiquer en fait comment on peut progresser avec la personne et avec sa collaboration. L'idée en fait c'est de développer les compétences des professionnels conformes, donc leur aptitude à pouvoir aussi analyser en fonction de différents publics. Ça aussi, ça fait partie de nos formations. Donc on a construit un nouveau format de formation modulaire en fait, sous format de 4 modules qui amènent à valider la pratique en médiation par l'animal. Et au sein de ces 4 modules, les personnes vont pouvoir venir rechercher ce qu'ils attendent en fonction de leur profil professionnel et de leur objectif professionnel. Donc il va y avoir un premier module qui est ouvert à toute personne qui fait, qui travaille avec ses animaux, qui a un exercice d'animaux, même par exemple les personnes qui interviennent en tant que chien visiteur, et ça c'est intéressant, jusqu'aux praticiens. C'est-à-dire ce premier module, c'est tout ce qui est développement de la coopération avec les animaux partenaires en médiation, c'est important. Identifier leur profil de caractère, savoir comment créer des situations positives avec eux, parce que l'idée c'est d'être vigilant aussi au bien-être de nos animaux, c'est-à-dire qu'ils doivent s'épanouir aussi dans ces pratiques. Le deuxième étant mobiliser les techniques de base en médiation par l'animal dans le cadre de séances individualisées. L'idée, c'est toujours individualiser notre travail. Et donc là, ça va être intégrer la médiation par l'animal au métier de la personne, à sa pratique professionnelle, hein, santé, sociale, paramédicale. On va avancer ensuite sur maîtriser les pratiques avancées, où là, on va structurer, leur permettre d'apprendre à structurer des protocoles thérapeutiques. Et on va avancer avec un travail de fin d'études. Et enfin, le dernier qui est là pour travailler sur l'autonomie de son activité dans le cadre du développement de présentations institutionnelles et d'histoire globale de la médiation par animal.
Ça ne va pas être simplement de l'apprentissage de techniques théoriques, c'est vraiment aussi un travail sur soi que la personne va faire lors de séances de formation.
Oui, tout à fait. En fait, l'idée en fait, de notre philosophie est toujours de partir effectivement de l'apprentissage, mais d'accéder à l'appropriation. C'est-à-dire que quand j'explique à des personnes qui me questionnent sur notre format de formation, on va leur amener de la méthodologie, de la technicité, mais en fait de la technicité à pouvoir analyser le besoin de la personne et à construire systématiquement et individuellement des situations qui soient particulières et singulières. Et singulière à chaque personne, donc, et leur permettre d'être outillés pour pouvoir ensuite analyser et tout au long de leur parcours professionnel en médiation par animal, pouvoir à chaque fois analyser les situations et les rendre particulières. Alors j'ai une petite phrase que je dis tout le temps, ça fait rire les stagiaires, c'est que du coup on leur donne pas du poisson, on leur apprend à pêcher. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, et bah, du coup ils gardent leur autonomie dans l'analyse et les diagnostics qu'ils peuvent faire.
Et donc après, comment ces personnes-là peuvent mettre concrètement en place de la médiation par l'animal ?
Alors, on a beaucoup d'établissements qui nous sollicitent pour maintenant former des professionnels au sein de l'établissement et qui ont des temps dédiés, voire jusqu'à temps plein, sur la médiation par l'animal. Donc dans les EHPAD, dans les structures pour personnes fragiles psychiques, personnes avec handicap. Et là, on a des personnes qui travaillent en fait avec ce point de repère-là. C'est maintenant une plus-value hein, dans le secteur de paramédical, santé sociale. C'est une plus-value d'avoir cette formation en médiation par animal à Humanima et pouvoir intégrer vraiment ces méthodologies-là aux pratiques en fonction des publics de l'établissement. Et puis sinon, c'est aussi pouvoir développer son activité en autonome, hein, activité libérale, autonome, et pour pouvoir proposer ses services au sein de différents établissements.
On part maintenant à Saint-Gilles, au centre Humanima, et plus particulièrement au manège, où Ethan, 13 ans, réalise des séances d'équithérapie avec un cheval, Vanille.
Je m'appelle Solène, je suis la maman d'Ethan qui a 13 ans, qui a été déclarée à 4 ans et demi d'un trouble autistique. Donc il a été suivi au Bois Perrin, au CHGR à Rennes, jusqu'à ses 10 ans. Et de 10 ans à maintenant, il n'a rien eu, à part la mise en place de l'orthophoniste 2 fois par semaine et moi qui a trouvé l'équithérapie Humanima, l'association, pour une prise en charge pour l'échapper un peu du groupe scolaire habituel. Au début, on a rencontré M. Doumalin, le directeur du Manima, avec Ethan, dans un premier rendez-vous. On a parlé, on a discuté des difficultés, du diagnostic d'Ethan, enfin plein de choses. Il a posé beaucoup de questions, aussi à Ethan. Et on l'a rencontré une deuxième fois, toujours sur le site, et après a commencé les séances d'équithérapie. Voilà. Ça s'est pas fait d'un coup. Voilà, il y a eu un petit peu d'adaptation, rencontrer, observer, voir. Parce que le collège, il est en cursus normal avec une AESH, ce qui fait que la semaine, il y a des journées qui sont dures et longues pour lui. Donc du coup, le vendredi, il sait que le vendredi matin, c'est un moment de plaisir, c'est son moment à lui et que ça annonce le week-end pour lui.
Et ça fait combien de temps donc qu'il vient participer à ces séances ici ?
Humanima, ça fait à peu près 2 ans et demi qu'il participe aux séances. À une séance par semaine d'équithérapie et après la médiation par l'animal. Alors l'équithérapie c'est avec le cheval, donc il fait des activités pour s'occuper du cheval, nettoyer, le brosser, curer les sabots. Il fait aussi des activités avec les lettres, les mots, un parcours. Il y a aussi le ressenti, le toucher avec l'animal. Et il monte sur le cheval aussi. Quand il y a des personnes nouvelles qui arrivent, il a du mal. De plus en plus, ça se passe bien. Comme vous, vous êtes nouvelle pour lui, il ne vous a jamais vu. Habituellement, c'est compliqué, mais maintenant, il accepte de plus en plus. Ça, c'était une des priorités à travailler cette année scolaire. À partir du mois de septembre, c'est ce qu'on voulait. Parce que là, il est au collège, il est en sixième, et là, c'était vraiment un grand changement pour lui. Beaucoup de professeurs différents, beaucoup de nouvelles têtes, un nouvel établissement, voilà. Donc, on a travaillé avec l'aide du Manima, on a travaillé sur ça. En objectif, avec le collège aussi en même temps. Je pense que ça l'apaise, c'est un moment agréable pour lui, c'est pas dans, il est plus dans le cursus scolaire où on l'oblige à faire des exercices, enfin, on l'oblige, entre parenthèses, mais là c'est un moment pour lui, c'est un moment agréable, tout en travaillant quand même des aspects différents par rapport à lui. Hein.
Du coup, je m'appelle Lucie, j'ai 22 ans. J'ai fait 3 ans d'études en médiation animale par le cheval de l'école qui est en Lorraine. Et pour être prestataire de services à Humanima, puisque aujourd'hui je suis en micro-entreprise, j'ai aussi fait les formations que Humanima propose de médiation animale pour avoir leur méthodologie et du coup mettre en lien les deux et pouvoir travailler dans la même direction ensemble.
Et donc là, ça fait combien de temps que vous faites ces séances-là avec Ethan ?
On a commencé au mois d'octobre. Donc voilà, moi je suis diplômée que depuis juillet, donc j'ai commencé, j'ai lancé ma micro-entreprise là au mois de septembre, et du coup voilà, je travaille assez régulièrement depuis octobre.
Comment s'est mise en place la relation avec lui du coup au fil du temps ?
Du coup c'était Alexandra qui faisait des séances avec lui, principalement avec les chevaux aussi, mais... du coup plus à pied, et donc du coup pour comme c'est compliqué, ça peut être compliqué pour lui vraiment de donner sa confiance et de s'ouvrir à quelqu'un d'autre, de pouvoir communiquer, on a plusieurs fois, c'est encore Alexandra qui faisait séance et moi j'étais là, et petit à petit c'est moi qui commençais à plus mettre en place les séances avec Ethan, mais Alexandra était toujours là, comme ça c'était un repère pour lui, et puis après Alexandra se mettait de plus en plus en retrait jusqu'à ne plus être là, mais et puis avec moi il a commencé à vraiment communiquer, et maintenant il n'y a plus... il communique vraiment bien avec moi. C'est comme ça qu'on a fait le lien, quoi. Ça a surtout été la communication avec Vanny, parce que c'était l'objectif à moyen terme, c'était qu'il remonte à cheval, parce qu'il l'a fait il y a quelques temps avant le confinement, tout ça, avec une autre équithérapeute. Et du coup, c'était le projet, et Ethan le savait, mais je le forçais pas. Et je savais que, enfin, je me doutais que pour lui, pour se sentir en sécurité de nouveau à cheval, d'avoir des bases de communication et pouvoir utiliser des codes à pied qu'il pouvait réutiliser et monter, ça allait le mettre forcément en confiance, et voilà. Et donc du coup on a beaucoup mis des parcours en place, comme ça il savait se positionner à côté de Vanny, parler avec elle, lui donner des codes aussi, c'était pour lui l'apprentissage de ces codes, Vanny marchait, Vanny hola, prendre en compte son gabarit, le sien dans les virages, etc. Donc sur des parcours dans le manège et aussi à l'extérieur, se promener en extérieur, du coup là comme elle avait tendance à observer, à vouloir aller brouter, voilà, c'était à lui de toujours veiller sur elle et de garder un œil sur elle, et c'est pour ça que petit à petit je lui ai proposé juste de monter une fois en séance, juste de monter, et comme ça sans lui mettre la pression, c'était vraiment pas le but, pour qu'il se sente prêt. Et de lui-même, il y a une séance où il a gardé la plateforme avec laquelle il monte, et il est monté, je lui dis qu'est-ce que tu veux faire, il m'a dit monter, donc on a mis le matériel et il est monté, et voilà, je pense que c'était le bon moment pour lui, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
Vous avez vu du coup depuis ces derniers mois une évolution?
Vraiment en communication, il communique vraiment avec Vanny parce qu'il a appris les mots, donc maintenant il y a vraiment un lien entre lui et Vanny. Il prend au début tout le temps de pensage, c'est vraiment un moment pour lui et avec elle. Je le laisse complètement en silence, dans sa bulle. Il utilise les brosses une à une en autonomie, comme il le souhaite. Il fait vraiment, c'est vraiment son temps. Je vois toujours, il y a des regards vers Vanny. Il la prend en compte, il observe comment elle réagit. De lui curer les pieds, c'est vraiment un moment qu'il adore. Il est très minutieux dans ce qu'il fait, et voilà, il prend vraiment soin de ses mouvements, etc. Et justement, au fur et à mesure de faire des séances avec elle, il connaît aussi ses habitudes, et notamment le point de grattage qu'on a cherché ensemble avec Vanny et qu'on a maintenant trouvé. Donc voilà, quand elle a bien, quand elle donne bien les pieds, il la récompense en la grattant à cet endroit, et là encore, il observe vraiment ses mimiques, et pour savoir si c'est... Voilà, c'est comme ça que la relation est établie entre elle et lui, et que, ouais, on voit qu'il prend plaisir à être avec elle.
Comment elle est la situation aujourd'hui sur la reconnaissance justement de cet apport, de cette plus-value de la médiation par l'animal ?
Alors, je crois qu'on a vraiment la reconnaissance du terrain, en fait. Hein. C'est-à-dire que vraiment, dans les secteurs professionnels, on a vraiment cette plus-value. On a, depuis longtemps maintenant, hein, par rapport à nos méthodologies Humio Anima, on a des prises en charge dans le cadre du budget global de soins au niveau des personnes âgées. Hein. On a des financements par la MDPH de prise en charge de individuelle. On a des financements de la part de CEDAS sur des accompagnements spécifiques. Donc là, on a vraiment la reconnaissance par rapport aussi à la traçabilité de notre travail, la plus-value, la transposition de ce qu'on peut faire dans nos séances dans l'amélioration de la vie des personnes et de leur mieux-être. Hein. Donc à ce niveau-là, on a bien avancé. Je pense qu'on est vraiment légitime. Ensuite, au niveau, par exemple, formation, on a déposé auprès de France Compétences la formation en pratique spécialisée en médiation par animal dont je vous parlais tout à l'heure, et qui, si on est reconnu au niveau du répertoire spécifique par un passage en commission, mais qui a des délais un petit peu plus longs parce que du coup ils ont beaucoup de retard, permettra d'avoir vraiment un parcours de formation certifié. On a eu parfois des jeunes qui sont venus à un moment se renseigner pour savoir quel parcours professionnel ils devaient avoir avant de pouvoir se projeter sur nos formations en médiation. Petite dédicace à Caroline qui est maintenant en Mayenne et qui était venue nous voir il y a quelques années, qui a fait ensuite une licence spécifique d'accompagnement des personnes fragilisées, qui est venue se former en tant que praticienne et qui est en train de débuter son activité maintenant. Donc on l'a rencontrée il y a 5 ans et maintenant ça fait 1 an qu'elle est en activité. Donc on a des parcours d'accompagnement et ça c'est très valorisant. Donc l'idée c'est vraiment de communiquer sur ce qu'on fait, sur nos formations et puis de découvrir l'environnement de notre institut de formation qui est aussi notre institut aussi pour réaliser des séances.
La recommandation du jour maintenant, c'est une représentation théâtrale et puis un forum qui sera organisé par la Maison des aînés et des aidants. C'est ce jeudi 17 mars à 14h à la salle de la Cité de Rennes. Ce spectacle Je suis l'autre sera joué par la compagnie théâtrale Ergatica et puis il sera suivi de 2 tables rondes sur la thématique Quelles ressources pour être soutenu quand on est aidant. L'entrée est gratuite sur réservation. Vous pouvez contacter la Maison des aînés et des aidants au 02 23 62 21 45 ou par mail à l'adresse maisondesaînés@ccasrennes.fr. Voilà, c'est jeudi 17 mars, 14h à la salle de la Cité au 17 rue Saint-Louis à Rennes. On va terminer l'émission d'aujourd'hui avec la chronique Le littoral autrement de la Corlab. Aujourd'hui, c'est le service hydrographique et océanographique de la marine à Brest qui est à l'honneur. Ce service, il s'appelle le CHOM. Je vous laisse le découvrir, je vous dis à bientôt et bonne écoute.
Le littoral autrement. Une série de reportages consacrés aux nouvelles activités maritimes en Bretagne.
Bonjour, je suis Nicolas Weber, je suis responsable des relations publiques au CHOM.
On se trouve au port de Brest aujourd'hui, ensemble, avec différents membres de l'équipe du CHOM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on est au port et quelle place occupe le port pour le CHOM ?
Bien évidemment, pour faire l'acquisition de données en mer, il faut être près de la mer ou sur la mer. Donc on a différents instruments qui vont être implantés, notamment dans les ports. Et je pense par exemple aux marégraphes. Hein. Les marégraphes, ce sont des appareils qui vont mesurer la hauteur d'eau pour ensuite faire les prédictions de marée. Et bien évidemment, à Brest, on a un marégraphe qui, lui, est implanté depuis très longtemps. Un peu à côté d'où nous sommes, dans le port militaire, à côté du château. Il a été implanté il y a à peu près 300 ans. Donc on a 300 ans d'enregistrement de marégraphie sur ce marégraphe. On en a bien d'implanté un peu partout sur les territoires français, mais celui-ci est le plus vieux.
Pascal Ledu, je travaille au département marée courant du CHOM. Alors ces données, ces hauteurs d'eau au départ servaient essentiellement pour l'hydrographie. Ça permettait de renseigner le navigateur pour savoir la hauteur d'eau qu'il y avait et notamment ce qu'on appelle le terme réduire des levées, c'est-à-dire en fait faire des cartes marines et donc porter des sondes sur une carte marine. Il se trouve que maintenant le niveau d'eau intéresse beaucoup de monde, notamment pour par exemple le suivi du niveau moyen, pour l'érosion marine, pour les zones de submersion marine. Et aussi pour les tsunamis, c'est-à-dire qu'en fait, des marégraphes peuvent être utilisés pour voir si jamais il y a une génération de vagues suite à une secousse sismique.
Gilda Kemener, hydrographe, service communication. Bien sûr, il nous faut prendre des informations aussi bien au niveau des côtes comme les marégraphes, mais aussi, effectivement, on fait des campagnes à la mer. Nous avons 4 bateaux hydrographiques sur lesquels les hydrographes, en fait, prennent des mesures. On fait 800 jours de mer par an, et lors de ces campagnes à la mer, on acquiert un tas de données, comme évidemment la bathymétrie, c'est-à-dire la profondeur, mais aussi plein de données annexes, comme de l'océanographie, nous étudions les courants, nous étudions aussi la gravimétrie, le magnétisme, le champ magnétique. Donc nous avons énormément de senseurs et de capteurs sur nos bateaux.
Un des éléments qui est complexe dans l'acquisition en mer, c'est justement d'acquérir dans un milieu qui est compliqué et aller acquérir dans de l'eau. Donc on ne peut pas utiliser de système optique, on est obligé d'utiliser des systèmes acoustiques. Donc c'est aussi une des particularités de cette acquisition en mer.
Donc il y a aussi des systèmes d'enregistrement acoustique, donc c'est des hydrophones qu'on appelle, c'est des microphones sous-marins.
Florent Lecourtois, docteur en acoustique au CHUM.
Et ces hydrophones, ils vont capter à la fois toutes les sources qu'il y a dans l'océan, donc on divise essentiellement la biophonie, les animaux, donc des cétacés, des mammifères marins, des poissons ou des invertébrés. L'anthropophonie, donc ça va être l'activité humaine, le bruit de bateau qu'on connaît essentiellement, aussi des battages de pieux, des constructions en mer. Et le dernier volet, peut-être moins connu, c'est tout ce qui va être la géophonie, donc l'activité liée à la planète. Donc le plus connu souvent, c'est le bruit du vent qui va, en fonction du vent, avoir des perturbations haute fréquence ou encore les tremblements de terre. Au-delà de ces sources se propagent dans l'océan et le son va interagir avec l'environnement. Donc c'est ce qu'on appelle la propagation. Et la mesure acoustique permet à la fois de connaître les propriétés de certaines sources, de leur distance, leur présence, mais aussi par des moyens un peu plus évolués en termes de traitement du signal, de connaître l'environnement, donc de connaître la nature du fond, les propriétés de la colonne d'eau. Donc ça, c'est l'intérêt de l'étude de l'acoustique, il est clairement double. Il est d'une part lié à la connaissance de ce qui va habiter dans l'océan, mais aussi à l'environnement lui-même, comment le son va se propager. Donc il y a un lien très fort entre la mesure acoustique et l'environnement. Après, notre travail, ça va être aussi reproduire des cartes de bruit sous-marin pour appuyer l'aide à la décision. C'est un outil pédagogique assez important pour comprendre comment les différentes activités vont générer du son et à quelles sont leurs emprises spatiales et temporelles.
Ce reportage a été réalisé par la Corlab avec le soutien de la DREAL et de la région Bretagne. Retrouvez-le en podcast sur corlab.org.
C'est terminé, une émission qui s'écoute du lundi au vendredi à 17h et à chaque fois le lendemain en rediffusion à 8h. Les podcasts, eux, sont à réécouter sur canalb.fr. Je vous dis à bientôt sur Canal B.